Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'INSERM. Je me présente, je m'appelle Aurélie Deléglise et je suis responsable de la communication à l'INSERM en région. L'INSERM, c'est quoi ? L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. Cette série de podcasts est dédiée à InScience, le festival de l'INSERM qui a lieu du 1er au 15 juin. Ce festival est une occasion unique de vous sensibiliser à la démarche scientifique en explorant les différentes thématiques de la recherche médicale. En clair, InScience vous donne les clés pour agir sur votre propre santé et vous permet d'en comprendre les enjeux. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ceux qu'on appelle plus communément les chercheurs. Ceux qui sont présentés dans cette série de podcasts ont tous un point commun. Ils ont été lauréats d'un financement de l'Agence nationale de la recherche qui subventionne des projets de recherche. Ils vous ouvrent les portes de leur laboratoire et de leur domaine de recherche. Êtes-vous prêts ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Nicolas Sergent, directeur de recherche à l'INSERM au sein du laboratoire Lille Neurosciences et Cognition, dans l'équipe Alzheimer et Tauopathie, qui va nous parler des recherches menées à l'INSERM sur la maladie d'Alzheimer. Je rappelle pour nos auditeurs que la maladie d'Alzheimer résulte d'une lente dégénérescence des neurones qui débute au niveau de l'hippocampe, une structure cérébrale essentielle pour la mémoire, puis qui s'étend au reste du cerveau. La maladie d'Alzheimer est caractérisée par des troubles de la mémoire récente, des fonctions exécutives et de l'orientation dans le temps et l'espace. Le malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie. Voilà, maintenant que tout cela est dit, je vous propose d'accueillir notre invité du jour, Nicolas Sergent. Bonjour Nicolas.
Bonjour Aurélie.
Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours de chercheur ?
J'ai un parcours classique. J'ai effectué mes études universitaires à Lille. J'ai obtenu un master en biologie cellulaire et j'ai ensuite poursuivi par un master 2 à l'Université de Paris en biologie de vieillissement, à la suite de quoi j'ai continué mes travaux de thèse sur la biologie du vieillissement avec un intérêt particulier qui était la recherche sur la maladie d'Alzheimer et maladie neurodégénérative apparentée. Parcours que j'ai effectué dans le laboratoire d'André Delacourte à l'INSERM à Lille, dans un laboratoire proche du CHR. J'ai ensuite eu l'opportunité de postuler à un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille, dans le but d'intégrer l'université en tant que maître de conférence. À la suite de quoi, ça n'a pas réussi. Donc je suis parti en post-doc en Angleterre pendant 2 ans pour travailler sur une thématique complètement différente qui était le cancer du sein, mais toujours en gardant de très bonnes relations avec mon laboratoire d'origine. J'ai souhaité ensuite intégrer sur ce projet, sur ces maladies neurodégénératives et le vieillissement, l'INSERM, sur un projet que je développe toujours, qui était avisé de développement diagnostique ou thérapeutique dans le contexte de ces maladies neurodégénératives. Je suis donc devenu chercheur en 2000 et je suis au sein du laboratoire Lille Neurosciences et Cognition depuis. Et donc au sein de cette activité de recherche, j'ai également développé depuis mon intégration à l'INSERM une deuxième thématique de recherche, cette fois-ci sur une maladie rare, la dystrophie myotonique de Steinert, qui est une maladie neuromusculaire, mais pour laquelle nous avions pu également établir un processus commun à la maladie d'Alzheimer, qui était la neurodégénérescence des neurones dans le cerveau.
Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est la dystrophie myotonique de Steinert ?
Donc la dystrophie myotonique de Steinert est une maladie rare qui touche à l'heure actuelle un individu sur 8000 en France et qui se caractérise surtout par des troubles musculaires et en particulier une myotonie, c'est-à-dire un défaut à la relaxation. Ces individus qui en sont touchés peuvent présenter différentes formes, une forme néonatale, une forme juvénile, une forme adulte. C'est en particulier à cette forme adulte que je m'intéresse, puisque les personnes qui sont atteintes de cette forme adulte développent en plus des atteintes cognitives et une dégénérescence neurofibrillaire, donc la lésion qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est une maladie modèle pour nous, puisque sa physiopathologie bien connue nous permet d'aborder en fait la problématique de cette dégénérescence par une autre fenêtre de recherche.
En quoi consistent tes travaux de recherche qui ont reçu ce financement de l'Agence nationale de la recherche ?
Alors, ce projet est issu d'une très longue collaboration qui remonte maintenant à plus de 20 ans et qui est le fruit également de mon travail de thèse, où l'objectif avec mon directeur de thèse à l'époque était de retracer l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer par l'étude du cerveau de patients qui étaient décédés soit du vieillissement normal, soit de maladie d'Alzheimer. Et nous avions pu identifier, à l'aide d'outils scientifiques, une hypothèse suivant laquelle on pouvait peut-être corriger des défauts que nous avions découverts. Donc de là, une stratégie a été développée. Et en particulier, cette stratégie a permis de nouer des collaborations avec des chimistes de Lille, et en particulier l'ancien directeur et président de l'Université de Lille, Christian Sergerhardt, et Patricia Melnik, qui était à l'époque jeune professeur, pour évaluer une hypothèse sur des molécules dérivées de la chloroquine comme pouvant potentiellement corriger ce que nous avions identifié dans le cerveau des patients. Fort de cette collaboration depuis 20 ans, nous sommes à l'heure actuelle sur des molécules qui ont montré leur efficacité à la fois chez l'animal, mais une molécule en particulier a été l'objet du développement d'une société qui a mené les essais cliniques et qui, à l'heure actuelle, vient de finir un essai clinique de phase 2 pour une maladie rare qui est la paralysie supranucléaire progressive. Et tout ce développement a été fait sur une stratégie pharmacologique pour laquelle on ne connaît pas la cible. Mais fort des connaissances qu'on a de l'efficacité de nos molécules, maintenant ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ces molécules fonctionnent pour mieux comprendre, certes, le fonctionnement, mais peut-être identifier de nouvelles cibles pour des développements thérapeutiques nouveaux et offrir peut-être d'autres perspectives aux thérapeutiques qui existent à l'heure actuelle dans les maladies neurodégénératives.
Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est la paralysie supranucléaire progressive ?
Cette pathologie fait partie des syndromes parkinsoniens, c'est-à-dire que d'un point de vue clinique, elle s'apparente donc à la maladie de Parkinson. Elle a cela de différent, c'est qu'elle touche en particulier ce qu'on appelle les noyaux oculomoteurs. C'est des petits noyaux qui sont dans le cerveau et qui contrôlent en fait le mouvement des yeux. Et chez ces individus, on peut repérer, c'est un signe clinique, donc des problèmes moteurs du mouvement des yeux dans le sens de la verticalité. C'est une maladie extrêmement rare qui touche un petit nombre de cas en France, mais qui est très invalidante et qui représente également une pathologie d'intérêt pour les scientifiques pour essayer de mieux comprendre donc, tous les mécanismes qui sont autour de la dégénérescence neurofibrillaire.
Donc le gros de ton activité, donc tes travaux de recherche sont consacrés à la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer ?
La maladie d'Alzheimer est une maladie complexe, en ce sens que c'est une maladie qui apparaît avec le vieillissement. Donc, elle touche les individus âgés. Dans de rares situations, elle touche des individus en deçà de 60 ans. Et dans ces cas-là, on appelle ça une forme jeune de maladie d'Alzheimer. Et souvent, qu'on associe avec des formes génétiques rares, mais qui représentent 1% des formes de maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui touche le cerveau et qui a pour conséquence le développement d'une démence. Donc, qui associe l'atteinte de 3 fonctions cognitives. Mais elle se caractérise surtout au niveau du cerveau par le développement de 2 types de lésions. Une lésion extracellulaire qu'on appelle les dépôts de substances amyloïdes, qui sont des petits dépôts sphériques qui vont envahir l'ensemble du cerveau et constituer d'une petite molécule, une protéine qu'on appelle le peptide bêta-amyloïde. Et l'autre grosse lésion qu'on retrouve dans le cerveau est la dégénérescence neurofibrillaire. Alors neurofibrillaire pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des neurones va s'accumuler des structures fibrillaires un peu comme des morceaux de pelote de laine, et qui sont constitués cette fois-ci d'une petite protéine qu'on appelle la protéine tau. C'est cette dégénérescence neurofibrillaire qui va envahir toujours les mêmes structures cérébrales, avec une évolution qui sera toujours la même, régionale et spatiale, qui vont conduire à l'apparition des atteintes cognitives et finalement à la démence.
Quelle est la suite à donner à ce projet de recherche ?
Donc, ce projet a été lauréat pour le financement en 2022 et la date de début de ce projet, c'est le 1er janvier 2023. Donc, ce projet regroupe 3 équipes dont les expertises technologiques sont complémentaires. Donc, l'équipe de l'UBUE dans laquelle j'évolue, qui est l'équipe Alzheimer et tauopathie du Centre de neurosciences Lille Neurosciences et Cognition. L'équipe de Patricia Melnik, qui est une équipe de chimistes, donc qui développe des molécules et avec laquelle nous avons envisagé une stratégie nouvelle de petites molécules qui vont nous permettre d'aller identifier donc la cible efficace des molécules en développement. Et finalement, l'équipe de Jean-Charles Lambert, qui évolue à l'Institut Pasteur de Lille et qui, lui, qui a toute une expertise en génétique et une étude des variations d'expression des gènes dans le cerveau humain ou animal, qui va être d'un grand bénéfice pour mieux comprendre comment fonctionnent nos molécules.
Et concrètement, au quotidien, comment tout cela s'organise-t-il ?
Comme vous l'avez bien compris, ce projet a pour objectif donc de découvrir maintenant la cible des molécules que nous avons développées et mieux comprendre également leur mode d'action. Et donc pour cela, on a regroupé les expertises de 3 équipes. La difficulté du projet est d'organiser à la fois les projets qui sont collectifs entre les 3 équipes, mais également les expertises de chacune. Donc c'est une organisation qui s'effectue à la fois sur des objectifs qui se répartissent dans le temps et qui se répartissent entre les équipes. Et donc le gros de mon travail, ça a été d'organiser donc à la fois ce travail pour chacune des équipes et le travail collectif, et donc d'organiser ce travail dans le temps entre les équipes, mais également réfléchir avec les partenaires, donc Patricia Melnick et Jean-Charles Lambert, pour peut-être surtout réfléchir aux difficultés qu'on pourrait rencontrer dans la réalisation du projet et anticiper tout de suite des solutions pour trouver des alternatives pour, à tout prix, découvrir notre cible et mieux comprendre comment elle fonctionne.
Merci pour toutes ces informations. Je vais terminer ce podcast par 2 questions que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans ce métier. À ton avis, quelles sont les qualités premières pour devenir chercheur ?
Pour moi, il y a 2 qualités essentielles pour un chercheur. C'est la curiosité, pour sûr, mais pas la curiosité maladive. C'est le fait d'être intéressé à découvrir un savoir nouveau, de pouvoir découvrir des choses nouvelles et surtout d'apprendre des choses nouvelles. Et au-delà de les apprendre, c'est pouvoir les partager à la fois avec la communauté scientifique, mais aussi les partager avec le grand public pour bien expliquer en quoi cette connaissance peut trouver un intérêt, soit dans un contexte de maladie, ce qui est le cas dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, voire même tout simplement sur un contexte beaucoup plus général de connaissances et de transmission de connaissances. La deuxième qualité, je pense que c'est la passion. C'est un métier qui est tout à fait singulier, en ce sens que on est certes dans une communauté où on est entre nous, entre scientifiques, donc on se comprend, mais c'est très compliqué d'expliquer à son voisin ce qu'on fait en science, parce que expliquer qu'on s'intéresse à quelque chose de très 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 précis, il faut revenir à des finalités beaucoup plus générales et rendre ce discours très accessible, parce que ce qui est fait au quotidien dans un laboratoire, c'est difficilement compréhensible. Donc effectivement, c'est un métier de passion parce que on y passe beaucoup de temps et bien souvent, 90% de notre activité, c'est trouver des solutions à des échecs pour essayer d'avancer. Donc en ça, c'est très difficile. Donc on ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné par la recherche et par le besoin de savoir et de connaissances.
Et dernière question, si tu n'étais pas devenu chercheur, quel métier aurais-tu aimé exercer ?
Ben, c'est une question qui rejoint un peu la première, c'est-à-dire quelle autre passion aurait pu animer toute une carrière ? En ça, je pense que c'est un domaine qui est assez proche pour moi de la recherche, c'est-à-dire la musique. Parce que je suis musicien, je suis batteur, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis batteur que je suis chercheur, puisque j'ai commencé cet instrument à l'âge de 8 ans, et c'est vraiment une grande passion pour moi. Mais à l'époque où j'ai dû choisir entre la science et la batterie, j'ai choisi la science parce que je voulais que la batterie reste un plaisir. Mais en quoi la batterie ou l'instrument de musique se rapproche de la recherche ? Bah, je pense que la musique, c'est un langage. C'est un langage qu'on partage et c'est un langage qui présente beaucoup de styles. Il y a la musique classique, le jazz, tous les styles de musique qu'on veut. Et en science, c'est un peu pareil. On a la génétique, la biochimie, la biologie cellulaire, la physiopathologie, le développement, les maladies infantiles, le cancer, les virus, le sida, le Covid qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc tout ça, ce sont des sortes de musiques que les scientifiques sont capables de comprendre, comme tout le monde est capable de comprendre la musique. Mais la difficulté pour le scientifique, c'est de rendre sa recherche musicale afin que tout le monde puisse la comprendre également.
Je te remercie beaucoup, Nicolas.
Merci, Aurélie.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'INSERM. À bientôt !